Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Nous allons retrouver notre feuilleton « On est plus tôt que tu ne penses ». Et je vous rappelle que vous pouvez gagner un t-shirt si toutefois vous donnez le bon nombre de mauvais jeux de mots inclus et à l'origine de ce feuilleton. Nous voici donc au 10e épisode où notre héros tourne autour du pot.
C'était donc ça le poteau indicateur, m'écriai Jean Péto et en moi-même. Jardine m'avait, souvenez-vous, entraîné jusqu'à la place centrale du village. Et là, elle me dit « Voilà !» Je regardais autour de moi, rien. Pas le moindre poteau, qu'il soit indicateur ou autre. Il faut dire, pour qu'on comprenne bien, que ce qu'on appelle la place centrale de ce village est l'ancienne place centrale, et que les voies qui y accèdent ne permettent pas à la moindre voiture de le faire, les voies étant trop étroites. Donc pas la moindre raison pour qu'il y ait là un poteau indicateur sur cette place. Alors en conséquence, j'avais beau me crever les yeux, comme il n'y avait pas de poteau indicateur, eh ben je n'en voyais pas. Jusque-là, ça me semblait logique. Ce qu'il était moins, c'est la raison pour laquelle Jardine m'avait entraîné là. Je me retournais donc vers elle afin de la questionner à ce sujet. Quand elle me dit « Là !» Elle me dit ça d'un ton impératif en désignant de l'index de sa main gauche aux ongles sales un pot de terre cuite. Ce pot avait environ 47,8 cm de diamètre dans sa plus grande largeur. Haut d'une cinquantaine de centimètres, il avait un col de 7,5 cm de haut et de 15 cm de diamètre. Et il était décoré de motifs en relief.
« Le pot !»
me redit-elle en le désignant du même index sale. Ah, elle est gauchère, pensais-je, et elle ne s'entretient pas les ongles, ajoutai-je une péto. Jardine, pendant ce temps-là, n'arrêtait pas de désigner le pot en faisant « pot » d'une manière tout à fait ridicule. Elle avançait les lèvres d'une façon complètement exagérée, d'où sortait un qui ressemblait vaguement à une corne de brume accordée en la mineure. Puis elle désignait sa poitrine et de sa bouche toujours en cul de poule, c'était « to » qui sortait. Et la corne de brume sur ce dernier ton était accordée en majeur. C'était très curieux. Pas vraiment laid comme son, mais un peu répétitif, voyez. Je sais, vous me direz que les quatre premières notes de la cinquième symphonie de Beethoven, c'est pas très très varié non plus. Mais là, il y avait vraiment pas de quoi en tirer une symphonie. Et puis cette mimique était d'un ridicule. Alors au bout d'un moment, j'en ai eu marre, et je lui ai dit, je sais. Et j'ai fait « pot » en montrant le pot d'un index de droitier à l'ongle immaculé. C'était un pot savamment modulé, avec juste ce qu'il faut de moelleux dans le timbre. Une petite merveille de pot. Et puis, j'ai, par un simple mouvement de langue, changé le pot en tôt, et en me désignant moi-même d'un geste élégant. Ah, tout cela avait une autre classe que ces gesticulations ridicules et bruyantes, elles. Il faut dire aussi que mon costume me fait déjà assez remarquer que c'est pas vraiment la peine d'en rajouter par des mimiques et autres gestes ridicules et excessifs.
« T'es con ou quoi ?»
me dit Jardine. Alors, et ensuite, ça devint franchement surréaliste. Elle se tenait devant moi, me montrait du bout de son doigt, se remettait à faire des mimiques invraisemblables pour me mugir un « pato » qui me laissa pantois.
« Pato, moi ?»
Oh, elle n'y allait pas de main morte, la Jardine, hier. Je croyais qu'elle allait s'arrêter là, mais pas du tout. Elle se toucha la poitrine et la corne de brune en la majeure reprit de plus belle.
« Tout !»
doigt sale planté vers elle.
Pato,
doigt sale planté vers moi.
Tout,
doigt sale pointé vers elle.
Pato.
Et avant même qu'elle approche sa main dégueulasse de mon beau costume, je m'exclamais.
Ah, oh, mais bon sang! Mais oui, mais c'est bien sûr! Oh, mais pourquoi n'y avais-je pas pensé avant? J'étais devant un poteau. C'était pas le poteau indicateur qu'il fallait chercher, mais un poteau indicateur. Et j'avais ça, trouvé ça tout seul, moi. Oh, de joie, je saisis le mât de Jardine et l'entraînais dans une farandole endiablée en braillant la danse des canards. Ah, quand même, hein, quand on dit que la bif est pas le moine, j'avais le poteau. Mais en quoi le poteau est-il indicateur? Alors, quand cette pensée me traversa l'esprit, j'arrêtai de me trémousser et reviens vers le pot pour l'examiner de plus près. Quelles indications peut-on tirer d'un pot? Mais, et pourquoi cet abruti de héros se révolte-t-il quand on lui dit qu'il est pâteau? Oh, vous le saurez lors du prochain épisode de notre grand feuilleton. On est plus tôt que tu ne penses. Onzième épisode, on est plus tôt que tu ne penses. Onzième épisode où l'on découvre que le temps se mesure au pastis. J'avais beau regarder et regarder encore le pot, l'étudier sous toutes ses faces. Enfin, ça c'est une expression idiote lorsqu'elle s'applique à un objet dont la forme est plus proche de la sphère que du cube. Mais je ne trouvais aucun indice m'indiquant en quoi ce pot pouvait indiquer quoi que ce soit. Pendant que je me livrais à cette tâche, Jardine conversait avec Marcel, qui, comme par hasard, se trouvait à passer par là. Au bout d'un moment, ils s'approchèrent. Et c'est avec franchement l'air de se foutre de ma gueule qu'ils me demandèrent où j'en étais de mes investigations. Je dus reconnaître que je n'avais pas avancé d'un iota, ni même d'une autre grecque de l'alphabet. Je suis comme un con devant ce pot, dis-je. Bah, tant mieux, ça prouve que t'es bien un allié des taux, me dit Jardine.
Ouais, c'est vrai ça, Macarel, ajouta Marcel. Le concerto,
c'est surtout vrai en sol mineur,
surenchérit Jardine en pouffant. Et la bonne mine, con. Oh, que t'as Marcel entre deux rires. Et je souris bêtement en attendant qu'il se calme. Et quand ils se furent essuyés les yeux, ils ont pleuré de rire, les ignobles, je leur demandai le plus calmement que je pus de bien vouloir enfin me dire en quoi ce bon Dieu de Pau pouvait bien indiquer quoi que ce soit et comment. Jardine, qui avait repris son calme la première, m'indiqua la bonne méthode. Il suffisait de mettre la bouche devant l'ouverture du col du pot, col qui, je le rappelle, mesurait 7,5 cm de haut et 15 cm de diamètre, et qui, de plus, était décoré de motifs en relief. Et, tout bêtement, il fallait énoncer à voix haute la question à laquelle on souhaitait que le pot répondît.
« Il n'y a pas plus simple, con !»
crut affirmer Marcel. Il n'y avait pas de doute. Il se moquait ouvertement de moi. Le con qui ponctuait sa phrase m'était indéniablement destiné et faisait sans doute référence au minable jeu de mots qui avait provoqué leur hilarité précédente. Je lui jetai un regard assassin, puis posai ma question.
« Mais parle plus fort !» intervient Jardine. « N'oublie pas que c'est un pot !»
Là, je la regardais sans comprendre.
« Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi ?» pensais-je. « Déjà que c'est ridicule de poser une question dans le col d'un pot en espérant qu'il va répondre, si en plus je le fais en gueulant comme un âne, c'est du coup que je vais vraiment passer pour un con.
« Mais c'est un pot, Macarelle !»
intervient Marcel. Là, le regard que je lui jetais devait osciller entre l'assassinat et l'incompréhension totale, car il précisa sa pensée d'un ton doucement poli en ces termes.
« Sourd comme un pot, Macarelle, si tu vois ce que je veux dire, con !»
Il aurait pu se retenir de prononcer son con habituel. Je l'en aurais été reconnaissant. Car je ne sais pas si je vais continuer à pouvoir supporter ce con à chaque fois qu'il me parle. Je me remis donc en position et hurlai la question dans l'ouverture supérieure de cette saloperie de peau. D'abord, il ne se passera rien du tout. Et comme je lui jetais un regard interrogatif, Jardine, sans rien dire, m'indiqua de son index de gauchère aux ongles souillés les motifs décorant le pot. Ceux-ci étaient en train de se déformer. Petit à petit, ces motifs qui, lorsque je les avais étudiés, représentaient incontestablement la prise de la Smala d'Abelkader, ce que j'avais pris pour un hommage à Pierre Dac et son célèbre tatouage dans le non moins célèbre sketch du voyant Rabin Rama Duval, ces motifs donc prenaient une toute autre forme. Au bout d'un long moment, au cours duquel nous eûmes le temps de vider le mètre de pastis que Marcel était allé se procurer au bar tout proche, l'étrange manège avait pris fin, et je pus lire très distinctement « Conda to mag ». Je vous rappelle que ma question, laquelle était formulée de façon très claire dans le 9e épisode, est de savoir où se trouve le quartier général des Taux.
Mais c'est où ça ? Questionnai-je Marcel.
Pour toute réponse, il se contenta de hausser les épaules. Manifestement, il ne savait pas. Je me tournai alors vers Jardine qui balbutia un
« Je sais pas !»
vaguement honteux. Ah, j'étais bien avancé, hein. Ah, j'avalais rageusement le pastis que Marcel me tendait, sans doute pour me consoler. Je ne sais pas si c'est l'effet de cette boisson ou la manifestation de mon génie habituel, mais de nouveau, une ampoule s'alluma dans le phylactère qui me suivait toujours.
Bon sang !
Mais c'est bien sûr 5 dernières minutes.
Quel est ce nouveau verbe? Et que va faire notre héros?
Et où se trouve Condatomag? Comme nous, comme vous, nous attendons avec impatience des réponses à ces questions qui se trouveront sans doute ces réponses dans le 12e épisode de ce merveilleux feuilleton qui est « On est plus tôt que tu ne penses ».
Douzième épisode où nous croulons sous les révélations. À la fin du précédent épisode, Sherlock Holmes, en fait, je vous le rappelle, notre héros a cru bon de prendre ce pseudonyme à rien ridiculement britannique. 5 dernières minutes, tonitruant, bon sang, mais c'est bien sûr. Ça n'a aucun rapport avec la situation. Et puis, quittant précipitamment Jardine et Marcel, sur un vague « j'ai affaire », il court jusqu'à la plus proche cabine téléphonique. Après avoir fébrilement et vainement cherché de la monnaie au fond des poches de son affreuse berline, il se rend compte que, de toute façon, cette cabine fonctionnait grâce à une carte téléphonique. Du coup, cette monnaie qu'il n'avait pas ne lui aurait servi à rien. Soulagé, mais dépourvu de la carte susnommée, il se voit dans l'obligation de rejoindre ses compagnons. En effet, il vient de se souvenir que Jardine possède un téléphone portable dont elle ne se sépare jamais, celui-ci lui servant à rester en contact avec le ou l'ato qui surveille le maire de Montpellier quand elle n'est pas en mesure de le faire elle-même. Il se saisit de l'appareil, compose un numéro et écoute la sonnerie retentir. Hein ? Que faire d'autre dans une telle situation ? Ah, c'est long, 38 sonneries. Mais notre héros est patient et il en est récompensé. Car la patience est toujours récompensée. Il en est récompensé quand à l'autre bout du fil, c'est une expression complètement surannée, vu que maintenant nos appareils téléphoniques n'ont plus de fil. À l'autre bout du fil, donc, un clic se fait entendre, suivi d'un « allô », un tantinet conventionnel, faut bien le dire. « C'est vous ?» demande notre héros. « Oui, c'est bien moi !» répond son interlocuteur. « Pourrais-je vous rencontrer demain ?» questionne notre héros. « Si vous voulez !» répond brièvement la mystérieuse voix avant de raccrocher. Mais alors, quel est ce mystérieux interlocuteur ? Ah, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est fait pour. Hein, il faut de temps en temps relancer l'attention de l'auditeur. Ah oui, l'intérêt de l'auditeur, aussi passionné, aussi averti soit-il, par une dose savamment évaluée de suspense. Ah, cette méthode réussit très bien dans la plupart des cas. Voyez, Hitchcock par exemple. Alfred de son prénom. Hein, ce réalisateur de cinéma américain, quoique d'origine britannique, le pauvre homme, est considéré comme le maître du suspense policier. Hein, il a illustré sa réputation par des œuvres d'une facture achevée et très élevée, où le dosage subtil de l'angoisse et de l'humour, l'art de nouer et de dénouer les fils enchevêtrés d'une intrigue, de suggérer pour émouvoir, de susciter
alternativement l'effroi et le sourire sont portés à leur plus haut degré d'efficacité. Il se montre préoccupé de psychologie et de vérité humaine sans cesser de mener le jeu du conteur avec une fascinante virtuosité. Enfin, ça, c'est ce que nous dit le petit Robert. Mais toujours est-il que, sans se prendre pour Hitchcock, notre héros a la vanité de penser que le feuilleton dont vous avez le 12e épisode dans les oreilles n'est pas loin de répondre à cette définition qui s'applique à Hitchcock. Bref, nous retrouvons notre héros le lendemain de cette conversation téléphonique. Il est toujours accoutré du ridicule et inutile déguisement quasi carnavalesque qui évoque le célèbre détective cocaïnomane. Il est mollement enfoncé dans les replets coussins d'un authentique sofa du 15e siècle, provenant de la saisie improbable du harem du sultan Bensar Humur par les fonctionnaires du fisc. Mais il n'est pas là pour vérifier l'origine des objets qui se trouvent en ce lieu. Il est là pour savoir où peut bien se cacher le quartier général d'Eto. Il est là pour savoir ce que signifie exactement ce condato mag que lui a délivré le poteau indicateur. Et il est persuadé que le personnage qui lui fait face possède les réponses à ses questions. Ce personnage est en train de confectionner un thé à la menthe. Cette activité requiert une certaine attention, d'où le mutisme dont il fait preuve à cet instant. L'ombre qui noie la pièce ne nous permet pas d'apercevoir le moindre indice qui nous permettrait de vous aiguiller, sauf peut-être l'extrémité d'une pantoufle surgissant dans la falote clarté émise par la petite lampe Louis XIII qui repose sur une table basse signée Boule.
Alors, vous avez éprouvé le besoin de me voir, mon garçon.
Oui, monsieur Antonin.
Ah, je me doutais que vous viendriez me rendre visite un jour ou l'autre, mon garçon. Comment se porte Jardine ?
Oh bien, monsieur Antonin. J'étais avec elle pas plus tard qu'hier.
Ah, vous étiez avec Jardine hier. J'aime bien les jeux de mots.
Ah,
oui. Oui, c'est un de mes passe-temps préférés. Mais c'est pas pour ça que vous venez me voir, je suppose.
Non, 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 c'est à cause du poteau.
Le poteau? Quel poteau? Mais le poteau indicateur.
Quand je lui ai demandé où se trouvait le quartier général d'Eto, il m'a répondu « Condato mag ». Et personne ne sait où ça peut bien être. Alors j'ai pensé
« Et vous avez bien fait. Il faut toujours penser ».
Là, un long silence s'installe. Antonin, une lueur amusée dans l'œil gauche, ne quitte pas notre héros du regard. Celui-ci, tout en regardant la pointe de ses chaussures, finit par oser prononcer
« Au sujet de ce condato mag, vous savez où ça se trouve ?»«
Condato mag, et bien sûr que je sais où ça se trouve. » Et vous aussi, d'ailleurs.
Ah oui ?
Ben, Condato Mag est le vrai nom de cette ville appelée du temps de la conquête romane Condato Magus. Autrement dit, de nos jours, Millau.
Millau ? Mais comment est-ce possible ?
Oh, je sais. On raconte que Condato Mag, l'ancien nom de cette ville, vient du nom du général romain à laquelle le territoire avait été attribué en récompense
de ses bons et loyaux services. Et condato mag vient bien du latin. Mais en réalité, ce nom vient de condo, qui signifie placé ensemble, caché, éloigné des regards, et to, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, et de magnus, qui signifie magie, magique. Bref, condato mag est la ville où les taux sont éloignés des regards, cachés et groupés par magie. C'est pas plus compliqué que ça.
Alors là, si vous pouviez voir la tête de notre héros, et avec un large sourire, Antonin reprend.
Oh, 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 vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mon garçon. Savez-vous qu'en réalité, les taux sont partout dans le monde, avec des statues et des fortunes diverses d'ailleurs. Par exemple, en Russie, le taux va riche, tandis qu'ailleurs, jusque dans le Nouveau Monde, on retrouve des taux. D'où viennent les noms de villes comme Toronto, Toledo, d'après vous? Ouais, je vous ferai remarquer que, comme par hasard, ces deux villes sont situées au bord de lacs. Le lac Erie pour Toledo, le lac Ontario pour Toronto. Certains taux se sont même installés dans des régions inhospitalières. Par exemple, les régions désertiques du sud des États-Unis, là où se trouvent aussi les Indiens Hopi. Tiens, à ce sujet, on dit que Custer, bah, vous avez déjà entendu parler de Custer? Oui. Eh bien, Custer, qui perdit la vie et la bataille de Little Bighorn contre les Sioux et les Cheyennes réunis, aurait regretté au moment où la première des flèches l'atteignit que les hôpitaux soient si loin. Ben, ça vous fait pas rire?
C'est ce que dit Antonin avant de boire son thé. Eh oui, pourquoi notre héros ne rit-il pas? Comment tout ça va-t-il finir? Hein? Eh ben, c'est ce que vous saurez dans le 13e et dernier épisode de notre grand feuilleton « On est plus tôt que tu ne penses ». Treizième épisode où l'on peut voir qu'il ne sert à rien de s'endormir tôt. Antonin buvait son thé à la russe. Ah, notre héros n'était pas sans connaître la méthode. Il avait lu Dostoïevski, comme tout le monde. Mais il n'avait jamais vu, de ses yeux vus, quelqu'un boire le thé de cette manière. D'ailleurs, en y pensant bien, il se dit qu'il voyait peu de gens boire le thé. Dans l'ensemble, ceux qu'il fréquentait buvaient plus de vin que d'eau, et le thé fait partie des boissons pleines d'eau. Cette réflexion, ne l'empêcha pas de se passionner pour le spectacle. Il éprouvait l'impression d'être le spectateur d'un documentaire qui se déroulerait en direct devant ses yeux. Cette ambiance de sofa, de poussière, cette obscurité, le silence seulement troublé par les que faisait Antonin en sirotant son thé trop chaud, tout évoquait une Russie de pacotilles. Ah, il boit comme ça, le russe, dit-il. Il met un morceau de sucre dans la bouche et il sirote à petite lampée plus ou moins bruyante un thé brûlant versé de la tasse dans la soucoupe. Évidemment, celui qui craint la chaleur fait plus de bruit que les autres, car il aspire en même temps que le thé une certaine quantité d'air dans l'espoir et le but que celle-ci fasse baisser la température de celui-là. Enfin, suffisamment pour qu'il ne se brûle pas la gueule. Ah, saloperie de thé, pense le russe. Et aussitôt que Matryoshka a le dos tourné, c'est de la vodka qui s'enfile le russe. Et la petite bonne d'à côté, s'il en a l'occasion. Et oui, enfin, pour en revenir au thé, ces bruits émis lors de l'aspiration vont du au en passant par les sur et autres relativement communs qu'était en train de d'émettre Antonin. Ah, pour les éternuements, hein, c'est pareil, hein, ça va du classique tchoup au plus ou moins accentué au tchoup et en passant par le tchoup qui est lui une pièce rare, le tchoup. Enfin, savoir s'il y a un rapport entre la façon d'éternuer et la façon de siroter son thé à la russe est une autre affaire et qui n'a rien à voir avec notre sujet. Voilà, notre sujet, c'est les taux, c'est ce que finit par se dire notre héros après avoir laissé libre cours à sa pensée. Bah, n'empêche que c'est curieux quand même de constater comme chacun éternue différemment. On pourrait presque mettre au point une carte d'identité infalsifiable basée sur l'éternuement, tiens. Hein, ce serait assez drôle. Tiens. Les gendarmes en train de vous chatouiller le dessous du nez avec une plume, vous faire respirer du poivre dans le cas où vous auriez des difficultés à éternuer votre identité. Tiens. Sans compter que les dix gendarmes devraient accomplir cette tâche appareillée de masque à gaz sous peine d'attraper les rhumes et autres maladies contagieuses qui leur seraient inévitablement inoculées par les éternuements intempestifs de ceux qui n'attendraient qu'un contrôle pour éternuer utile. Non, décidément, Sherlock a du mal à rester attentif. Son esprit vagabonde d'un sujet à l'autre. Il entend comme dans du coton la voix d'Antonin. La voix d'Antonin qui a repris son soliloque.
Oh, je pourrais vous en raconter des choses sur les taux. Pendant des jours et des jours, sans m'arrêter. Mais à quoi bon ? À quoi bon savoir que dans les temps anciens, le Larzac s'appelait le Cousteau ? À quoi bon savoir qu'à Condatomag, tous obéissaient au taux cuiseur qui dirigeait la cuisson des poteries célèbres de la Grofozinck. Il demandait au taux discipline et obéissance. Il ne fallait pas que notre centre stratégique soit connu. Et il ne le faut toujours pas, d'ailleurs. Or, la lutte contre les taux est lancé par les Américains qui, non contents de vouloir massacrer les Irakiens, seraient enchantés du succès de Monsanto, qui ne rêve que de notre extermination. Ah, ce n'est quand même pas par hasard si la contestation anti-OGM a pris naissance chez nous. Ce n'est pas non plus par hasard qu'il n'y a pas si longtemps Millau était la capitale des gants. Oh, tôt, beau gants, comme on dit chez nous. Alors, ce savoir-faire, les gants, nous en avons fait une industrie. On disait alors que l'avenir appartenait au patron dont les ouvriers se lèvent tôt. Afin de céder d'être exploité par ces patrons aveyronnais pour qui seul l'argent compte, nous avons effacé de la mémoire des habitants de Millau leur appartenance au peuple tôt. Ah, évidemment, on y a un peu perdu sur le plan économique, mais ainsi, ils ne risquent pas de bavarder et de livrer nos secrets. C'est à la même drogue que vous êtes soumis actuellement. À votre réveil, vous aurez oublié tout ce qui concerne les taux, et ça vaut bien mieux comme ça. À ces mots, notre héros tique.
Il comprend enfin pourquoi il se sent si bizarre depuis qu'il a bu ce fichu thé. Ah, décidément, pense-t-il, on ne peut pas faire confiance aux boissons à base d'eau. Puis il arrête de penser pour essayer de comprendre ce que le vieil Antonin dit.
Cela ne nous empêche pas d'être à la pointe de tous les combats. Souvenez-vous, le Larzac, la lutte anti-OGM, le McDo, le 30 juin 2000. Si je vous laissais votre mémoire à vous qui êtes un taux sans le savoir, vous ne pourriez pas vous empêcher de jouer les héros. Votre maison de la rue du Champ du Prieur serait l'hérotologie et non plus l'hérostologie. Vous seriez le nouvel héros Thoman. Or, nous n'avons pas besoin de héros. Dans cette zone érogène, nous ne voulons pas de héros. Il vaut mieux pour tout le monde que tout ceci n'ait jamais existé et que tout soit effacé de votre mémoire.
Mais pourquoi ça ?
Pour préserver la paix que nous avons réussi tant bien que mal à établir. La paix. Je ferai tout pour qu'aujourd'hui et demain règne la paix tôt d'hier.
C'est à ces mots que notre héros perdit conscience. Quand il s'éveilla, Antonin lui fit croire qu'il avait eu un malaise. Il lui fit même un cadeau d'une magnifique plaquette représentant un chat. Notre héros remercia chaleureusement le marchand d'antiquités. Et ce n'est que quand il est rentré chez lui en le posant sur une étagère qu'il se dit qu'il avait déjà vu ce drôle de chat quelque part. Mais où ? Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compté le nombre de mauvais jeux de mots de cet épisode. Et je vais dire merci à Théo qui toutouille les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.